Bien, bonjour à tous, désolé pour le petit retard, et voilà. Mais je suis prêt effectivement à laisser ma place si quelqu'un se sent une énergie un dimanche matin. Donc bonjour à tous et toutes, merci d'être présents à une heure où beaucoup sont encore ou être encore dans une phase de grasse matinée. Donc nous allons parler effectivement d'écologie globale dans la science-fiction. J'ai autour de moi toute une série de personnes éminemment qualifiées pour parler de ce type de sujet. Donc, en commençant à ma gauche par Claude Ekenn, donc l'auteur de pas mal de choses effectivement qui concernent les aspects écologiques. Donc moi j'ai retenu, enfin des choses que j'ai vues et bien aimées, La saison de la colère évidemment, hein. Donc roman qui décrit une Camargue dans 2050, donc complètement inondée, effectivement avec toute une série de contraintes à gérer, donc Mission Caladan, les jardins d'ADN, donc des nouvelles ou des travaux, des écrits qui touchent effectivement aux aspects écologiques. Donc Claude est très qualifié pour parler de ce type de sujet. À la gauche de Claude, Jean-Marc Ligny, que nous sommes d'autant plus honorés d'accueillir qu'il est récemment primé depuis hier. Donc lui aussi éminemment qualifié pour traiter de ces questions et de ces enjeux écologiques. Donc notamment à travers Aqua TM, Aqua Trademark, donc où la question centrale est celle de l'eau, où l'humanité qui est décrite est celle d'une humanité qui est engagée vers une folie destructrice. Donc je pense qu'on aura l'occasion aussi de revenir sur ces aspects d'anticipation écologique. Et on a déjà eu quelques discussions là-dessus qui ne sont pas forcément très rieurs en termes de. Enfin, pour le coup, ce n'est pas les lendemains qui chantent qui nous sont décrits. Voilà. À la gauche de Jean-Marc, Yael Ayardal. Bah, pas tout à fait extrême gauche, il y a encore quelqu'un qui est encore plus à gauche que Yael Ayardal. Donc lui aussi éminemment qualifié pour traiter de ces enjeux écologiques, donc auteur de nombreux romans, de nombreuses nouvelles. Je ne cite pas pour chaque auteur tellement la liste est longue à chaque fois. Donc Yael Ayardal, le Grand Prix de l'Imaginaire en 2010. Si ma mémoire est bonne pour Demain une oasis. Voilà, on dirait que c'est un détail, un dimanche matin, ça passera sans que personne ne s'en rende compte. Et puis donc à l'extrême gauche, Dominique Martinigol, Daniel, pardon, voilà. Il faut le temps de connecter les neurones, hein, le
Elle est
dimanche.
totalement extrême ce matin, Daniel, faites
Voilà.
gaffe.
Et après quelques jours de congrès et conférences, effectivement, on commence un petit peu à fatiguer. Donc, en tout cas, l'auteur d'une œuvre aussi assez importante, cette fois-ci plutôt orientée vers la jeunesse. Donc, là aussi, une série de romans qui traitent des aspects environnementaux, des aspects écologiques. Donc, on pourrait citer L'Or bleu, qui là aussi travaille la question de l'eau et la question de la raréfaction de l'eau. Donc, j'imagine qu'avec Jean-Marc, vous aurez des sujets sur lesquels échanger, en tout cas des visions à confronter. Donc, parmi les autres écrits, j'ai noté aussi Les oubliés de Vulcain, qui est une manière de traiter des relations humaines, si j'ai bien compris, avec d'autres espèces et d'autres entités, donc avec un enjeu que celui de la relation au biotope, si j'ai bien également compris. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc voilà, en tout cas, un panel qui est éminemment compétent pour traiter de ces enjeux d'écologie globale. Alors, sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que enfin, les sujets que vous traitez, ce n'est pas tellement l'écologie globale. C'est certes des aspects écologiques, mais qui ne sont pas situés dans des perspectives globales. Donc, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous positionnez vos écrits par rapport à ces enjeux qui, pour le coup, pour la table ronde, ont été davantage positionnés sur des thèmes globaux. Claude?
C'est assez difficile de se positionner de façon globale, dans la mesure où il faut raconter une histoire et qu'il faut avoir des personnages qui sont localisés, hein, dans un endroit ou dans quelques endroits spécifiques, mais on ne va pas leur faire faire le tour de la planète. Par ailleurs, les solutions que l'on peut proposer sont elles aussi locales. Selon les endroits, ce ne sont pas les mêmes solutions qui s'appliquent. J'avais participé d'ailleurs à un séminaire de réflexion avec Volubilis sur Avignon, où c'est un groupe qui essaie de réfléchir sur les nouveaux paysages et l'urbanisme à repenser dans le milieu méditerranéen. Donc ça concernera aussi bien le Maroc, la Tunisie, que l'Italie, l'Espagne, la France, mais c'est uniquement autour du bassin méditerranéen parce que ça ne sera pas les mêmes solutions que l'on pourra proposer ailleurs. Donc à partir de là, être global, il va falloir écrire des romans très très gros, très longs, comme ceux de Jean-Marc par exemple.
Je ne traite pas d'écologie globale non plus. Hein. Il ne s'agit pas de faire un traité sur l'état écologique de la planète, comme dit Claude à l'instant. C'est des histoires qu'on raconte, donc qui se passent dans des lieux spécifiques, avec des personnages spécifiques qui vivent une aventure particulière. Oui. C'est dimanche matin. Donc dans Aquatem, effectivement, j'ai choisi de traiter le problème du changement climatique sous l'angle de l'eau, de sa distribution et de sa raréfaction, enfin de l'eau potable en tout cas, et de sa distribution tout à fait inéquitable. Et c'est un choix que j'ai fait parce que ça me paraissait être un sujet... difficile à comprendre pour moi dès le départ, et ensuite à faire comprendre au lecteur ensuite. Surtout, là on est en Bretagne, quand on dit qu'on va manquer d'eau dans l'avenir, pour des Bretons ça paraît étrange, vu la quantité qui tombe du ciel en moyenne chaque année. Et donc, j'ai voulu moi-même comprendre ce problème, et pour ça j'ai potassé des dizaines de bouquins. Et l'écologie globale, je pense que je m'en suis donné un aperçu mental, en tout cas, documentaire et documenté, et duquel j'ai tiré les éléments dont j'avais besoin. Mais je pense que dans Aqua ou dans Exode, en fait, il y a un aperçu de l'écologie globale de la planète, parce que tout est lié, quoi. Et surtout dans Exode, d'ailleurs, où là, je traite du réchauffement climatique dans son ensemble, et donc des effets que ça produit sur la planète, sur la faune, sur la flore, et en premier ressort, sur ceux qui nous concernent, qui nous intéressent en premier lieu, c'est-à-dire les humains, quoi. J'aborde plutôt mes romans, moi, sous un angle sociologique, en fait, c'est ça que je préfère. Moi, j'ai des personnages, et j'aime savoir comment ils ressentent ce qui va nous tomber sur la gueule, quoi. Comment ça va être ressenti au niveau du vécu humain. Et c'est traiter d'écologie globale, ou alors, on parle d'un monde, on crée une planète, c'est du planète opéra, c'est Dune ou quelque chose comme ça, ou Mars, la rouge, la verte, la bleue, la jaune. Là, effectivement, on peut parler d'écologie globale, puisqu'on va construire une écologie sur une planète qu'on invente ou qui existe et qui n'en a pas encore, parce que l'écologie de Mars, elle est réduite quand même à sa plus simple expression. Et si on décide, par exemple, d'écrire un roman où on va terraformer Mars, j'ai abordé la question dans certains de mes écrits, là, forcément, on va traiter d'écologie globale, parce que le terraforming d'une planète, il faut tout prendre en compte. L'écologie globale... au niveau documentaire, mais au niveau de l'histoire, c'est pas tellement possible, je pense.
D'accord. Yal.
You. It is not because you are. I am you because. Non, pardon, excusez-moi. Juste pour rappeler que le titre que citait Jean-Marc a eu le prix Utopia 2013 hier, et donc accessoirement, si vous pouvez tomber dessus, ça vous remontera le moral, hein. C'est comme ça qu'on peut le vendre, je crois. L'écologie globale, tiens, c'est intéressant, ça, c'est un machin. Il y a aussi la théorie de Gaïa. Alors moi, j'ai plutôt la position de Stephen Jay Gould.
Tant que tu y as dit deux mots sur la théorie de Gaïa, peut-être pour.
Oh putain, deux mots. Ça, c'est ton job.
Non. Enfin, moi, je ne suis que modérateur aujourd'hui, donc je fais un effort pour ne pas m'immiscer dans la discussion, même si parfois j'en ai fortement envie. Donc, deux mots pour dire ce que c'est que l'hypothèse Gaïa et en quoi ça peut servir de source d'inspiration pour
les
autres.
Je pense que tu connais beaucoup mieux que moi.
Oui, mais...
ça, en plus, travailler un peu dessus, donc... Allez, tu l'expliqueras mieux que moi.
Je peux le dire en une seule phrase. Et tu parleras de Stephen Jay Gould, qui est peut-être plus intéressant.
Non.
L'hypothèse Gaïa, c'est la Terre est un être vivant.
Donc c'est le titre d'un ouvrage d'un biologiste écologue qui s'appelle James Lovelock.
James Lovelock.
Qui considère qu'effectivement, la somme des mécanismes naturels qui sont sur la planète forme un système. Et que la perturbation d'une partie de ces mécanismes va changer la totalité de la physionomie de la planète. Et d'où cette métaphore de la Terre qui serait un être vivant si on la prend dans sa globalité et si on considère l'ensemble des mécanismes comme des mécanismes autorégulateurs.
Je trouve que c'est pas faux, personnellement. Bon, ceci dit... Quitte à lui donner une conscience, c'est peut-être aller un petit peu plus loin, quoi.
Il ne va pas jusque-là. Hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement la capacité d'autorégulation de la Terre prise comme un système. Alors après, effectivement, il y a d'autres personnes qui le lisent et qui poussent le cran un peu plus loin et qui considèrent qu'effectivement, on peut donner une espèce de conscience à la totalité planétaire. Mais ce n'est pas l'hypothèse sur laquelle lui travaille.
Là, on verse un peu dans la théologie. Mais la Terre, en tant que système écologique global, ça me paraît évident.
Oui, tout à fait.
Bon, l'effet papillon, etc.
Hein? Vivant.
Vivant, oui.
Donc, du coup, nous avons coupé la parole.
Non, moi, dans l'effet papillon, ce que j'ai retenu, c'est surtout Steve McQueen. Enfin, putain, il n'y a que moi que ça fait rire. Non, mais vous n'êtes pas réveillé encore ou... Ah non, il y a quand même deux ou trois personnes dans la salle qui ont repéré le truc. Non, c'est vachement bien, c'est chouette. J'ai situé, il y a un recueil de novella qui a dû se paraître l'année dernière, cette année même, tiens, chez ActuSF, La Troisième Lame. Donc c'est deux approches d'une écologie globale, mais plutôt d'un écosystème global, avec peut-être dans l'un des deux, mais alors là, je laisse le lecteur responsable de ce qu'il lit. Moi, en tant qu'auteur, j'ai écrit ce que je voulais, ça n'avait rien à voir avec ça. Peut-être la possibilité d'une organisation ou d'une auto-organisation entre différentes espèces pour que ça fonctionne, quoi. J'ai un peu l'impression, d'ailleurs, de temps en temps, que la planète fonctionne comme ça, la nôtre. Je veux dire, t'enlèves un truc et tout s'effondre. Surtout si tu prends une bactérie au hasard, genre Escherichia coli. Vous en avez tous sur vous, mais... Pardon, je suis un peu mort de rire. D'ailleurs, ne me touchez pas. Ne me touche pas. Je suis très musical ce matin. Quelqu'un a une question?
Non, pas tout de suite. Non, ou pour prendre un autre exemple qui est celui des abeilles, effectivement. Enfin, si les abeilles disparaissent, c'est toute une série de cycles écologiques qui vont être forcément perturbés.
Voilà, alors moi, c'est un petit peu comme ça que fonctionne en fait... mes romans, c'est-à-dire je prends un problème, c'est les abeilles, je prends un problème qui est déjà suffisamment important pour être connu de tous, et je pose ma loupe science-fiction dessus, c'est-à-dire je grossis ce problème en le projetant dans le futur, et du coup j'arrive à créer des mondes qui seront finalement assez abordables par des jeunes lecteurs, avec une sorte d'activité monotache, si j'ose dire. Dans L'Or Bleu, c'est le problème de l'eau. Dans Les Oubliés de Vulcain, c'est une planète poubelle. Dans Les Manches Forêts, c'était une planète forestière qui allait être dévastée par de méchants manches forêts, alors qu'il y avait de gentils manches forêts naturellement à la surface. Mais ça, ce sont des romans. Les Manches Forêts, par exemple, c'est un roman pour des lecteurs de 9-10 ans. Donc, comment envisager l'écologie globale pour des jeunes lecteurs aussi débutants en science-fiction? C'est évident que c'est impossible d'envisager une planète dans sa globalité écologique avec tous les aspects que ça supposerait de connaissances scientifiques. Donc en fait, en littérature jeunesse, assez souvent, enfin en tout cas moi, je fais des planètes monotâches, c'est-à-dire qu'il y a un problème, une problématique qui est étendue pratiquement à toute la planète. De façon à ce que mon jeune lecteur ait quand même plaisir à suivre les aventures de héros au milieu de ces difficultés écologiques, mais qu'on se polarise simplement avec un phénomène de grossissement sur un seul aspect écologique à chaque planète. Et voilà, donc bien sûr, l'écologie globale... C'est peut-être dans mon dernier roman, dans Charlex, que je l'ai le plus envisagé, puisqu'il est question d'une terraformation ratée. Donc c'est ce que je voulais montrer, que si on allait un jour ailleurs et qu'on voulait reconstituer un biotope suffisamment productif pour nous pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour survivre au niveau alimentaire, agriculture, élevage, etc. Comment est-ce que ça s'accomplirait, ce genre de choses? Et c'est un gros risque à courir. Donc,
qu'est-ce que ça donne, une terraformation ratée?
Eh bien, ça donne une planète qui crève, littéralement, parce que j'ai... Je sais pas, ça vous intéresse? Attendez, je vais vous lire.
Demain.
Je vais vous lire.
Vous pourriez faire ça avec un peu plus d'enthousiasme aussi.
Je vais vous lire ce que ça donne. Terragrogène, alors c'est pas difficile, hein, c'est Monsanto, je le dis clairement, hein, veut racheter, alors je l'ai pas dit dans le roman quand même, hein, je tiens pas à me faire tuer tout de suite. Terragrogène veut racheter pour une bouchée de pain les terres envahies par les épis rouges. Désespérés, les malheureux colons agriculteurs sont prêts à céder. Certains d'ailleurs ont déjà vendu. Quand Terragrogène possédera tout, nul ne sait ce que les actionnaires ont l'intention de faire de ce monde pour le mettre définitivement au banc de la Confédération. Un blackout total pour que l'échec de leur entreprise sur ce monde ne leur porte pas préjudice. Donc mon héroïne se souvenait de ce qu'avait raconté son ami agriculteur, le cycle infernal d'une terraformation faite sans principe de précaution, destruction des plantes locales par défoliation massive, installation des colons, ensemencement des plantes génoformées imposées, mutation des plantes locales, premier envahissement des champs par les parasites, herbicides vendus à prix d'or, endettement des colons, second envahissement des champs par les épis rouges réfractaires, ruine des colons qui ne peuvent plus lutter, rachat des terres à bas prix, et ensuite, se demandait-elle en s'interrogeant sur le rôle qu'elle pourrait jouer au milieu de cette catastrophe. Alors, ça se produit sur Terre à petite échelle. Moi, je l'ai mis carrément à la surface de toute la planète, quasiment. Donc, voilà, c'est parce que je veux attirer l'attention de mes jeunes lecteurs sur des points dramatiques de certains ratages sur la nôtre que je fais justement ça au niveau de toute la planète.
Claude, tu voulais réagir et poursuivre?
Oui, je voulais dire que Daniel n'était pas la seule à recourir à des planètes monotaches, parce que hormis Kim Stanley Robinson avec sa trilogie martienne, et encore parce que Mars est un monde assez pauvre, si l'on veut, du point de vue de la diversité, il me semble que même les autres auteurs, Frank Herbert avec Dune, c'est une planète monotache. Dune, c'est une planète désertique. Et pour ce qui est de la série des Deliconia de Brian Aldiss, il a surtout joué sur le long terme et non pas sur la diversité des paysages. On a toujours, donc, de ce point de vue-là, une planète monotache, parce que sinon, on a vraiment un roman trop fouillé. Et je crois qu'il y aurait vraiment une grosse difficulté, mis à part le fait de résumer, comme tu le fais, certaines situations, je ne vois pas comment on pourrait raconter tout ça sans perdre le lecteur en cours de route.
Oui, on a effectivement un petit problème en science-fiction, c'est qu'il y a des gens qui écrivent outre-Atlantique, il y a des gens qui écrivent de ce côté de l'Atlantique. Donc ce que tu dis, c'est très vrai. Alors, en ce qui concerne Brian, il est outre-Manche, lui, hein, pas outre-Atlantique, mais qu'importe. Mais c'est très très vrai, ils se sont concentrés sur un ou deux aspects qui étaient spécifiquement la chose sur laquelle il voulait travailler. Je voudrais juste dire que et Jean-Marc, dans Aqua, par exemple, a travaillé à l'échelle globale de la planète. Et c'est aussi le cas dans Exode. Et donc, on peut le faire. Je vais te contredire, en voilà, fait, oui. Claude. On peut le faire.
Je pense que ça marche, oui. Et je pense que ce sera encore le cas dans la suite de... troisième volume de mon triptyque
climatique. C'est pas possible, je me suis déjà suicidé.
où là, je vais décrire une Terre qui aura radicalement changé suite au changement climatique. Bon, le fameux effet Vénus dont on parle, donc l'emballement du climat et qui va modifier radicalement la planète comme elle s'est déjà modifiée radicalement à plusieurs reprises par le passé. Donc, avec une écologie, enfin du moins un écosystème réduit peut-être à une expression beaucoup plus simple qu'actuellement, des océans acidifiés, des températures supérieures à 100 degrés à la surface de la planète, des vents à plus de 300 km/h, des déserts torrides, une vie peut-être souterraine, foisonnante, mais très réduite à la surface. Des pôles où il n'y a plus la moindre once de glace. Le niveau des océans qui a fortement monté, mais qui baisse parce que les océans s'évaporent. Donc un effet de serre maximum, le soleil voilé, des nuages perpétuels dans l'atmosphère. Enfin, ça va être un monde bizarre. Ça va être un monde bizarre qui ne va plus tellement ressembler à la Terre. Et pour le coup, là, je suis vraiment obligé de voir l'écologie de la planète dans son ensemble, même si je place les aventures de mes personnages dans un petit endroit et qui vont aller d'un point A à un point B, en passant éventuellement par un point C. Et en tout cas, ils ne vont pas parcourir toute la Terre. Mais ne serait-ce que pour le petit coin où ils vivent, je suis obligé d'imaginer tout le reste. Parce que ce petit coin dépend de tout le reste, quoi.
Je ne sais pas si vous imaginez Val d'Isère sans télésiège.
C'est dramatique.
Non, parce que ça se passe tout à Val d'Isère. Mais ça, il a pas osé en parler. J'ai dit du mal de nos amis anglo-saxons. Je vais juste corriger. Il y a un certain nombre d'auteurs anglo-saxons qui ont énormément réfléchi à l'écosystème Terre. J'aime pas bien le mot Gaïa, mais à l'écosystème Terre. Il y a un type qui s'appelle Paolo Bacigalupi qui a écrit un bouquin il en a écrit plein, parce que il écrit sans arrêt, le salaud. Mais il a écrit un bouquin qui s'appelle La fille aux tomates.
Génial.
C'est une fille qui a plusieurs tomates. Non, si jamais vous tombez dessus, qui a osé me siffler ? Beaucoup de talent. Donc, La fille automate, mais c'est aussi le cas de tous les autres ouvrages qu'il a écrits, que ce soit pour la jeunesse ou que ce soit pour les adultes. Il travaille dans une réflexion globale sur les modifications du système climatique et de ce que ça entraîne, modifications qui sont dues à l'activité humaine. Et il a fait ça dès son premier roman, qui est un putain de chef-d'œuvre, mais il continue à le faire. Et petit à petit, il nous fait aborder tous ces angles, comme Jean-Marc l'a fait, et le fait continue d'ailleurs, parce qu'il vient de nous dire qu'on va avoir droit à un troisième. Moins content. Et voilà. C'est une approche. Non, c'est parce que je ne voulais pas dire que du mal de nos amis anglo-saxons. C'est tout. Il y a Ted Chiang aussi, si vous n'avez jamais lu, si vous avez l'occasion, en fait.
Oui, puis ce qui est fort chez Bacigalupi, c'est sa capacité aussi à montrer les effets des pénuries énergétiques, des évolutions de la domination des entreprises agroalimentaires, et de lier tout ça et de faire un schéma global qui a sa cohérence et qui décrit une forme de société vers laquelle on pourrait s'acheminer.
Et lui aussi, comme Daniel, ne dit pas Monsanto. Parce que son agent et son avocat lui ont dit, alors là, on va aux emmerdes, tu vois. Mais en fait, il parle toujours de la même chose. Et ce travail qu'il fait, qui est extrêmement précis, il manque peut-être à un moment donné de prononcer ce genre de gros mots.
Dans les jardins d'ADN, une courte nouvelle, j'ai écrit, j'avais appelé mon Satan.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est beaucoup plus proche.
Oui, c'est assez explicite.
Alors moi, à chaque fois, je l'appelle Monsanto. Mais c'est juste dans des mails que j'écris à des copains.
Alors, le Dune a été évoqué, forcément. Le nom de Frank Herbert a été évoqué. Donc, fréquemment considéré comme la référence ultime en termes de vision d'une écologie globale. Est-ce que pour vous, c'est justifié ?
Alors, non. Et d'ailleurs, on le voit bien dans Dune. Il a fait d'Arrakis une planète avec un seul climat. Il est gentil, mais ça fonctionne pas. Ça, on connaît pas encore de.
Encore que, si on suit le fil de l'histoire, le climat va évoluer. Et la planète qui était désertique va être.
Yep, dans la maison des mers. Alors, effectivement, on commence à voir évoluer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement le. Bon, il s'est peut-être un petit peu planté, parce que c'était plus facile. L'un de ses personnages les plus fascinants dans la série de Dune, c'est Lyle Kynes, qui est l'écologiste.
Le planétologiste.
Le planétologiste. Oui, parce que je préfère en plus le mot planétologie à écologie. Écologie, c'est lié presque à des opinions politiques, comme si nous avions des opinions politiques. Enfin, faut être sérieux, quoi. Lyle Kynes est un spécialiste d'une écologie, mais on a l'impression que cette écologie, Frank Herbert a voulu la travailler sur l'ensemble de la planète, mais ça ne peut pas coller. Il y a aussi des pôles, il a oublié les pôles. Il a oublié, il a créé des tempêtes extraordinaires à qui il a donné des noms extrêmement sympathiques, donc ça s'appelle mère, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. C'est toujours les femmes qui trinquent, vous avez remarqué, quand il y a dès qu'il y a un coup de vent, etc., c'est paf, c'est pour leur gueule, quoi. Martine, la prochaine tempête, vous ne la connaissez pas encore. Donc la tempête Martine qui s'abat cet après-midi sur Nantes. Là, je vois Jean-Marc atterrir, il se dit, mais il est où là? J'ai pas eu le temps de dormir, moi.
Moi non plus.
Bon, ça va mieux. Mais d'une... Frank Herbert, d'une, c'est quand même... Il y a 6 tomes. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, et quelques textes qui ont été écrits en amont de ça, qui ont été les précurseurs de la série de Dune. Jamais Frank Herbert n'a travaillé sur une écologie globale. Il a au contraire globalisé un système écologique pour l'ensemble d'une planète, sans se poser la question de savoir que, bon, effectivement, elle pouvait par exemple tourner la planète, tu vois, ou avoir un axe d'inclinaison vis-à-vis du soleil, etc. Il a fait tout sauf le boulot scientifique. Je dis ça, j'adore ce mec, hein, il est mort. Non, non, mais avant qu'il soit mort, je l'adorais quand même. Hein. Mais donc, plutôt que de faire un travail global sur un écosystème, sur un système écologique à l'échelle d'une planète, il a préféré transposer, et il l'a fait plusieurs fois, il l'a fait déjà dans d'autres ouvrages, dans Dossadi, dans L'étoile et le fouet, il transpose à chaque fois un phénomène particulier à l'ensemble d'une planète. C'est comme si moi je vous racontais une histoire, ça se passe sur une planète, et j'oublie de vous dire qu'il y a des changements d'heure d'un endroit à l'autre, qu'il y a des décalages horaires, que... voilà.
Pardon.
Je vais bien tailler un short, c'est bon ?
Moi, j'ai remarqué une certaine tendance qui parfois m'irrite dans les romans de science-fiction et encore plus dans les films. C'est qu'en général, quand on va placer une histoire sur une autre planète, on a tendance à considérer la planète comme une banlieue du coin où on habite. Ça paraît tout petit, une planète. Dans certains bouquins ou films de science-fiction, une planète, ça paraît tout petit. Et puis, voilà, le vaisseau spatial débarque. Et puis, le bon endroit, là où sont perdus les naufragés. Et effectivement, comme Dune, un désert s'étend l'ensemble de la planète. C'est le même climat partout. On a l'impression que pour certains auteurs anglo-saxons, toute une planète peut ressembler à une banlieue de Philadelphie, quoi. Et ça a tendance à m'irriter. Une planète, c'est un vaste monde quand même. Et rares sont les auteurs qui considèrent que n'importe quelle planète vivable peut avoir une circonférence de 40 000 ou 50 000 ou 60 000 km². J'ai un bon exemple de ça, c'est la planète géante de Jack Vance. Là, au moins, la planète a une taille de planète. Et n'a pas l'air d'être un astéroïde planté autour de sa capitale. Quand je lis des romans où effectivement les gens font le tour de la planète en 5 minutes et puis où un problème local est étendu à l'ensemble du monde sans qu'il y ait d'autres conditions, ne serait-ce simplement les décalages horaires, les pôles, le fait que la planète tourne, que selon son inclinaison, il peut y avoir des saisons, que s'il y a un désert ici, il peut y avoir une jungle foisonnante ailleurs, il peut y avoir des forêts, il peut y avoir des toundras, etc. Il peut y avoir 10 000 paysages. Il suffit d'observer la Terre, quoi. Même si le travail nuisible de l'humanité tend un peu à uniformiser la planète, comme je cite... au début d'Exode, en exergue, cette phrase magnifique et, je dirais, prémonitoire de Chateaubriand, « Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. » C'est l'essence de l'Exode.
Pourquoi je me suis suicidé 2 fois en lisant ?
Donc, les humains ont tendance, effectivement, à semer le désert autour d'eux et derrière eux. Néanmoins, la Terre est encore une planète... ayant un écosystème d'une incroyable richesse. Et quand on écrit une histoire de science-fiction qui se passe sur Terre ou ailleurs, il ne faut pas oublier que les mondes sont vastes. Et donc, les planètes monotaches, bon, je suis d'accord avec toi, c'est bien pratique, surtout en littérature jeunesse, mais pour moi, lecteur de SF exigeant, ça a quelque peu tendance à mériter, mais ce n'est pas pour toi que je dis ça, moi j'adore ce que tu écris. Hein. Et puis, de toute façon, c'est pas le sujet principal. Toi, tu as d'autres messages à délivrer, je veux dire, quoi.
Ou alors le cas ultime de la transformation complète, c'est la Trentor chez Asimov. Enfin, c'est là, pour le coup, on a une planète où la nature a complètement disparu et tout a été artificialisé jusqu'à des profondeurs assez importantes de la croûte planétaire.
Ouais, c'est une solution de facilité, quelque part. Hein.
Donc ça devient monotache, certes, mais poussé à une autre extrême. Claude, je te voyais aussi avec quelques réserves.
Trentor, je me dis qu'il doit aussi y avoir des tremblements de terre de temps en temps et qu'il faut aussi tenir compte de tout ceci. Mais je me rends compte que c'est l'évolution de toute la littérature, peut-être de science-fiction, c'est d'arriver à maîtriser tout ce qu'il y a autour du thème principal qui est traité dans un récit. Je suis en train d'écrire un article qui s'intitule « Vers la complexité » où j'observe justement ce mouvement. Pendant longtemps, bon, c'est vrai que les planètes étaient monotaches et on avait la planète agricole, on avait la planète des savants, des choses que je trouvais aussi un petit peu ridicules. Mais lorsque l'on traite aussi d'une thématique, d'une invention, l'univers à côté était plutôt flou. La société n'existait pas vraiment, ou alors si elle existait, ce n'était que en interaction avec l'idée qui est développée. Et le reste n'existait pas du tout. Et ce n'est que progressivement, peut-être aussi parce que de plus en plus le monde est en interaction et que ce qui se passe à l'autre bout de la planète a des répercussions de l'autre côté, on est en train de parler de tout à la fois. Je regarde justement Paolo Gassibaldi. Ça y est, on va y arriver. Je n'y arrive jamais. Paolo. Je regarde Ian MacDonald avec le fleuve des dieux. Ce qu'il avait écrit aussi avant, il prend chaque fois un endroit, le Mexique, l'Inde. Mais à ce moment-là, on a tous les problèmes qui sont traités à la fois. Et donc, peut-être parce que le monde se complexifie, la littérature de science-fiction, elle aussi, se met au niveau et part de toutes ces interactions. Mais je me rends compte que c'est peut-être aussi valable pour d'autres disciplines. Il y a un historien plutôt axé sur le monde médiéval qui plaidait pour une histoire-monde et qu'on cesse de parler de l'histoire que du seul point de vue occidental.
Mais Fernand Braudel.
Braudel avait commencé, mais non, je pense plutôt à des auteurs, j'ai pas le nom en tête, mais plutôt contemporains, quoi. Braudel, oui, bon, on parlait de la Méditerranée, mais c'est vrai que c'est faire à peu près ce même travail-là. Mais si on parle de la Méditerranée en l'an 1000, voir aussi ce qui se passait à ce moment-là en Chine, par exemple. Et là aussi, il y a des interactions, il y a des liens, et il s'agit de voir comment tout ceci est interconnecté.
Alors, si on essaye de faire un effort de conceptualisation, même si on est un dimanche matin à un horaire un petit peu matinal, on pourrait considérer que derrière ces questions-là, en fait, il y a une espèce de couple, qui est le couple équilibre-déséquilibre ou ordre-désordre, comme si l'équilibre, c'était bien, et le déséquilibre, c'était problématique et mal. Qu'est-ce que vous pensez, enfin, de cette manière de concevoir l'écologie globale ?
C'est intéressant la question telle que tu la formules. C'est une question qu'on se pose tous vis-à-vis d'énormément de choses. Ça ne concerne pas que l'écologie. C'est ordre, désordre, bien, mal, plus, moins, etc. On maîtrise de plus en plus et on comprend en tout cas des systèmes qu'on appelle chaotiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'ordre, du désordre, et puis il y a des choses qui bougent à un endroit, qui vont provoquer quelque chose d'autre à un autre endroit. Et ce qui est intéressant, dès qu'on commence à réfléchir à l'échelle d'une planète, par exemple la nôtre, puisque c'est la première planète qu'on va détruire, mais c'est aussi la première planète qu'on va reconstruire, probablement, c'est la première qu'on aurait intérêt à terraformer rapidement, parce que il y a des choses qui commencent à déconner graves. Voilà. Donc, mais quand on tient compte de tous ces petits phénomènes qui vont se croiser, s'entrecroiser. On est dans une théorie mathématique du chaos. Je dis mathématique parce que on devrait être plus proche de la physique logiquement, mais il y a des données qui sont très difficiles à maîtriser. Et tenir compte de tout un tas de petites choses qui sont là, à gauche, à droite, et qui ne forment pas un ordre ou un désordre, qui simplement interagissent les unes avec les autres et qui, petit à petit, ben, vont créer, je ne sais pas, un truc tout bête. Les Égyptiens ne se sont pas aperçus immédiatement en cultivant le désert de façon intensive. Je parle des anciens Égyptiens, hein, je ne parle pas des Égyptiens d'aujourd'hui, c'est tous des copains. Le premier qui dit un truc mal, non, il n'y a personne. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient en train d'agrandir l'assèchement de la région dans laquelle ils vivaient. De la même façon que dans la toundra, on a fait un petit peu la même chose en surexploitant un certain nombre d'espèces. Mais au bout du compte, ça a modifié non pas un climat local, mais ça a modifié globalement tout un système climatique tel qu'aujourd'hui, chaque fois que dans l'océan Pacifique, il y a des coups de vent ou il y a une petite température qui augmente d'un demi-degré en surface, enfin, sur les premiers mètres en surface, c'est un gros coup de paix sur la gueule de la planète. Et il va y avoir des tempêtes partout, mais pas que sur la partie Pacifique. Il va y avoir des tempêtes dans l'Atlantique. C'est bon, j'ai dit tout à fait les sottises qu'il fallait ou Jean-Marc en a encore rajouté?
Non, t'as dit des parfaites sottises.
Non, toi bien parlé, toi. Non, je voulais juste rajouter que, à mon avis, la notion d'équilibre, déséquilibre, quand on parle d'écologie globale, je pense que en écologie, l'équilibre parfait n'existe pas. Une planète, qu'elle soit peuplée ou non d'humains, comme la Terre. Une planète comme la Terre, même bien avant les hommes, a vu son climat se modifier de façon drastique à plusieurs reprises et à des points tels que le réchauffement actuel qu'on constate n'est qu'une ridicule péripétie par rapport à certains états qu'a eu la planète par le passé où pratiquement aucune forme de vie n'était possible à la surface. Par contre, la vie foisonnait dans l'océan. Donc, comme dit Yal, là, il y a une certaine théorie du chaos qui se met à l'œuvre. Je pense que la planète, en tant que telle, dans la mesure où une écologie existe dessus, bon, les seules planètes à écologie stable sont peut-être les planètes rocheuses stériles ou les planètes de glace complètement figées, type Encelade ou Europa. Et encore, on pense qu'il y a certainement sous la surface... Il y a des mouvements de convection, il y a des failles qui se creusent, il y a des échanges de température, etc. Bon, une planète comme Io, par exemple, qui est hautement volcanique, elle a une écologie de type chimique et minérale foisonnante, ou Titan, pareil. Bon, à la rigueur, on peut dire que la Lune a une écologie stable, hein, parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose quand même. À part des chutes de météorites de temps en temps, il ne s'y passe pas grand-chose. Mais la Terre a une écologie, un système, un écosystème, il vaut mieux parler d'écosystème effectivement, qui est en constante évolution qui va des fois atteindre un état de déséquilibre tel que ça va provoquer une extinction massive, un changement de climat drastique, mais qui va se produire sur des milliers d'années. La différence entre ce qu'a connu la Terre par le passé et aujourd'hui, c'est peut-être la rapidité de l'évolution. Quoique, la fin des dinosaures s'est produite d'une façon tout aussi rapide et brutale, voire encore plus, si on en croit la théorie de la chute de l'astéroïde géant qui a éliminé les dinosaures finalement en quelques années seulement, hein, alors qu'ils dominaient la planète depuis 200, 300, 500 millions d'années, enfin bien plus longtemps que nous jusqu'à présent.
Ça n'a été qu'une extinction partielle. Ça ne veut pas dire après que...
Ça a favorisé l'émergence des mammifères. Alors peut-être que l'extinction de l'humanité va favoriser l'émergence des fourmis, des scorpions, des cafards, je ne sais pas, d'une autre espèce plus évoluée que nous, ou qui sera plus évoluée que nous dans l'avenir. Ça peut être intéressant à étudier aussi.
Non, mais j'ajouterais même que l'état naturel, c'est le déséquilibre constant. Il faut qu'il y ait sans cesse un déséquilibre pour ensuite rééquilibrer de l'autre côté, et pas seulement sur de longues échelles de temps. Je dirais que les saisons, le vent, les tempêtes, c'est toujours un déséquilibre qui compense autre chose, qui va avoir un impact sur la suite. Et il faut qu'il y ait ce mouvement perpétuel. Il me semble que la Terre s'arrêtera peut-être de changer lorsqu'il n'y aura plus de plaques tectoniques en mouvement. Et donc c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson. Lorsque le centre de la Terre sera suffisamment refroidi et que les continents cesseront de bouger, là, je ne sais pas si on va encore avoir longtemps un mouvement et donc du déséquilibre. Et à ce moment-là, lorsque un monde devient statique, ben, le monde devient mort. Hein.
Et donc la question, c'est celle de l'évolutivité. Comment est-ce qu'on pense l'évolutivité des différents systèmes? J'avais une question pour Daniel à propos des oubliés de Vulcain, où là, pour le coup, la planète qui est évoquée est une planète qui devient poubelle, et on est dans une vision d'une perturbation de l'équilibre assez...
Oui, c'est ça que je voulais souligner, c'est que quand on s'adresse à des jeunes lecteurs, enfin, c'est pas gai tout ce qu'on est en train de dire là, hein, il faut reconnaître que il y a beaucoup de pessimisme dans tout ça, même s'il y a beaucoup de lucidité, bien sûr, mais... Et pour des jeunes lecteurs, cette idée, justement, de déséquilibre, équilibre, ordre, désordre, etc., c'est important de leur faire sentir tout ça, mais il faut quand même, d'une certaine façon... terminer, si j'ose dire, avec quelque chose de positif. Il ne s'agit pas de tomber dans le monde des bisounours. Hein, ils sont loin d'être idiots, hein, les gamins, maintenant. Et donc, mais tout de même, ils ont suivi un personnage qui était actant, qui agissait pour contrecarrer éventuellement, y compris des grands trusts comme ceux que je présente dans certains de mes romans. Il faut qu'il y ait quand même une réussite quelconque, surtout une prise de conscience. De toute façon, mes lecteurs sont parfaitement conscients que ce que je fais, c'est tirer des sonnettes d'alarme et quelque part, je leur passe le relais. C'est-à-dire, je leur dis, voilà, bon, moi, j'ai 64 ans, j'ai fait tout mon boulot de prof toute ma vie, j'ai écrit 40 bouquins, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour justement tirer ces sonnettes d'alarme, essayer d'éveiller un petit peu, de déboulonner un peu la tête de mes élèves et de mes lecteurs. Et maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à vous, avec ces petites graines semées justement par des bouquins de science-fiction. Ensuite, il y en a qui reviennent me voir en me disant « Oui, j'ai continué à lire, je lis maintenant Heyerdahl, je lis Ligny, etc. » parce que
j'essaie de faire croire qu'on est plus jeune qu'elle.
Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est que justement, cette dialectique ordre-désordre, équilibre-déséquilibre, semée par petits germes dans les bouquins ados, font qu'il y a une réflexion et il y a des gestes tout bêtes. Moi, un gamin, après avoir lu Les Oubliés de Vulcain, qui donc est une planète sur laquelle la Confédération planétaire de 30 mondes vient déverser sans sourciller des containers d'ordures à longueur de temps. Et donc, ben voilà, justement, il y a des gens sur cette planète qui sont ce que, à l'époque, j'avais évoqué comme étant des boat people, parce qu'il y a des gens qu'on a dépotés aussi là-dessus pour s'en débarrasser. Mais enfin, bon, on sait bien à quel point tout ça, c'est encore extrêmement actuel. Et c'est ces personnes qui sont justement les oubliés de la planète Vulcain. Et donc, un de mes jeunes lecteurs me dit, avec un peu de hargne, il me dit « Oh, je me suis fait disputer par ma mère à cause de vous. » Ah bon, j'ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « Oui, parce que j'ai retourné ma poubelle, enfin ma corbeille à papier dans ma chambre après avoir lu votre bouquin, et ma mère est entrée juste à ce moment-là. » Alors, donc, on imagine effectivement la maman demandant ce que son fils est en train de faire. Et il m'a dit « J'ai fait ça parce que je voulais voir ce que j'avais comme déchet dans ma corbeille. » Et il m'a dit qu'il avait pris conscience qu'effectivement, les supports avec le stylo ou les effaceurs d'encre, le carton, le plastique, etc., ça faisait une quantité de déchets dans sa corbeille à papier sous son bureau qui était plus importante que ce qu'il en avait sorti pour poser comme matériel scolaire sur le bureau. Eh bien voilà, moi j'ai gagné quand j'ai des réactions comme ça de jeunes lecteurs. Je me dis qu'effectivement, ben voilà, il y a quelque chose, il oubliera mon nom, il oubliera le roman, il oubliera tout. Et ça, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'un jour, quand il aura des actes citoyens à accomplir, il reste quelque chose de tout ça. Et donc, ma foi, à cet adulte qu'il deviendra, d'aller vers l'ordre ou le désordre. C'est son choix. Mais si on a pu commencer avec des romans jeunesse à les faire réfléchir sur certaines choses, ma foi, voilà, c'est un petit peu le choix que j'ai fait, moi, dans ma carrière, de m'adresser toujours à ce créneau d'âge, à ces jeunes lecteurs. Je grandis un peu petit à petit, je pars vers ce qu'on appelle les young adultes, mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et là, dans le roman dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, évidemment, les personnages vont agir, vont changer les choses, mais on est quand même conscient que c'est le pot de terre contre le pot de fer, même s'il y a une victoire à un moment donné. Et le roman se termine sur une note de lucidité, à savoir que les fameux épis rouges qui ont tellement détruit Téride, et même enfin ces fameux épis rouges, on va peut-être bien pouvoir les utiliser pour faire autre chose, dis donc.
Peut-être pas, même empêchera Tullia de se suicider.
Pas en bon signe, hélas.
Alors, pour rester sur cette question de la remise à l'équilibre, il y a aussi quelque chose qui devient de plus en plus troublant. C'est la prétention d'un certain nombre d'individus à intervenir dans les grands équilibres. Et ça s'appelle notamment la géo-ingénierie, qui est pour le coup, qui sera sans doute pour le coup un très beau sujet de science-fiction dans les années qui viennent. Comment vous positionnez, vous, par rapport à ces propositions de géo-ingénierie planétaire, d'intervention sur le climat ?
Moi, ça me terrifie. On a eu un débat hier ou avant-hier où on a abordé la question. J'avais posé la question, est-ce qu'effectivement une telle aberration était possible ? Et la réponse a été qu'effectivement c'était possible, qu'il y avait les lobbies financiers, les trusts industriels et une certaine volonté politique pour aller en ce sens, notamment de la part des États-Unis qui veulent se poser là en sauveur du monde. J'espère de tout mon cœur que le reste de la planète va freiner des cas de fer et se révolter contre de tels projets. Parce que là, pour le coup, c'est du suicide à vitesse accélérée, quoi. Donc, le geoengineering, de son nom, ce serait des procédés consistant à vouloir réguler, entre guillemets, le climat d'une façon technologique. C'est-à-dire, par exemple, en ensemençant l'atmosphère de particules de poussière pour réduire la chaleur du soleil. Ou
des particules de fer dans l'océan.
Ensemencer l'océan de particules de fer pour que les algues fixent plus vite le carbone, etc. Ou placer des espèces de miroirs géants en orbite pour détourner la lumière solaire. Enfin, des solutions genre Bruce Willis sauve le monde, qui évidemment, il n'y a même pas besoin d'être un tant soit peu scientifique pour imaginer tout de suite que le remède sera nettement pire que le mal et que si on veut prétend vouloir corriger un déséquilibre qui est en train de se produire en introduisant un déséquilibre inverse qui sera encore plus grand, les résultats seront catastrophiques. Et notamment concernant l'ensemencement de l'atmosphère, la réponse qui m'avait été donnée par je ne sais plus qui la personne, était qu'effectivement, dans les 4-5 premières années, ça aurait pour résultat de refroidir quelque peu la température globale, mais que ça, par la suite, accélérerait le réchauffement climatique par un facteur de l'ordre de 15, quelque chose comme ça, quoi. Donc, on ne ferait qu'aller encore plus vite dans le mur, quoi. Et ensemencer l'océan avec des particules de fer, on peut demander aux poissons ce qu'ils vont en penser. Hein. Je pense que ça va pas trop leur plaire.
Si on est optimiste, on peut faire l'hypothèse que ça supposerait à minima des accords internationaux entre les différents États. Donc,
là, c'est pas si on est optimiste, c'est si on est réaliste. Et à minima des accords internationaux, pardon. Je vais aller un petit peu à l'encontre de ce que dit Jean-Marc pour une fois. Tiens, ça me fait plaisir. De toute façon, on joue, qu'on en ait conscience ou pas, on joue avec tout l'écosystème planétaire. Donc on a pris très tardivement conscience que la révolution industrielle a déclenché un réchauffement climatique qui est en train de s'accélérer. On joue d'autres façons. L'ingénierie à l'échelle de surface énorme, oui, elle peut faire peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Mais par contre, il va y avoir des problèmes à résoudre très, très rapidement. Là, on a le pergélisol de toute la Sibérie qui est en train de se réchauffer. C'est la plus grosse réserve mondiale de méthane. Le méthane, au cas où vous l'auriez remarqué, est un gaz qui n'est pas forcément sympathique sur l'ensemble de l'écosystème. Ben, il contribue, entre autres, au réchauffement climatique.
23 fois plus puissant que le gaz carbonique.
Voilà, 23 fois plus que le gaz carbonique. C'est écrit dans tous les bouquins de Jean-Marc, d'ailleurs. Je vous rappelle donc les titres. Et il va bien falloir à un moment donné, parce que ce réchauffement, il est en train de se produire, et à un moment donné, les Russes, ils vont pas aller venir avec leur chalumeau pour l'accélérer, pour récupérer le méthane, parce qu'ils savent pas encore bien comment faire pour l'utiliser d'un point de vue économique, alors que ça serait très, très intéressant. C'est une ressource gazière qui est formidable.
Et ils y pensent, hein.
Mais bien sûr qu'ils y pensent, sauf qu'ils savent toujours pas comment faire. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que là, il commence à y avoir des dégazements assez importants. Ces dégazements vont être de plus en plus importants dans les 10 années qui arrivent. Et à un moment donné, on va se retrouver avec une catastrophe de celle qu'on a eue sur certains, sans S, lacs en Afrique. Et hop, 5000 morts d'un coup. Terminé. Ça sera un petit peu plus, parce que la superficie en question, c'est grosso modo un tiers de la surface habitable en Europe.
C'est une région où il sera interdit de fumer.
Même de péter, parce que là, tu seras considéré comme pollueur.
Claude, sur la géo-ingénierie, quelques mots ?
Non, c'est sûr que c'est extrêmement dangereux. C'est un jeu de Mikado, hein. Il faut arriver à déplacer le bon élément pour éviter que le reste ne bouge. Mais ça, on n'y parvient pas, on ne maîtrise pas suffisamment le climat. En même temps, lorsque l'on parle toujours de déséquilibre, ça va peut-être avoir quelques répercussions positives à un autre endroit de la planète. Ça ne sera en tout cas pas du tout ce que l'on attendait. Et chaque fois que l'on joue au démiurge de cette façon-là, il faut s'attendre à de grosses surprises. On dirait que certains, ça ne les effraie pas, ou alors ils ne voient que leur intérêt très limité. Je rappelle que dans le fleuve des dieux de Ian MacDonald, on remorque des icebergs dans le Gange afin de pouvoir redémarrer la mousson. Mais bon, qu'est-ce que ça donnera exactement? Je n'en sais rien.
Et c'est toute la question de ce qu'on appelle les boucles de rétroaction dans les théories systémiques. Enfin, voilà. Il nous reste quelques minutes pour des questions dans le public. Il doit y avoir un micro qui circule. Une question à droite.
Bonjour. Il y a deux cycles qui me paraissent, que j'ai envie de citer, c'est le monde des nonas et les guerriers du silence, Van Vogt et Bordage. Il y a, dans le monde des nonas, c'est Vénus, si je me souviens bien, qui est décrit comme un écosystème absolument parfait dans lequel il y a des arbres géants dans lesquels on vit. Et Bordage, lui, décrit chacune de ces planètes dans lesquelles se passent les guerriers du silence, avec, pour le coup, les fuseaux horaires, les levées de lune et de soleil, les vents auxquels il a donné des noms, et tout ce que les légendes qui tournent autour de ces astres qu'il y a au-dessus des planètes. Et j'aurais juste voulu savoir ce que vous en pensiez, quel était votre avis là-dessus.
Alors, on va être très clair en ce qui concerne notre ami Van Vogt. On sent bien que Vénus, c'est pas tout à fait ce qu'il a décrit. Alors aujourd'hui, on a à peu près une approche différente. On a l'impression qu'il fait très très chaud là-bas et tout, et qu'on a même du mal à percer la couche atmosphérique pour voir ce qu'il y a en dessous. Concernant Pierre, tu viens de dire un truc intéressant. C'est Pierre a énormément travaillé justement sur la précision des écosystèmes, et en tenant compte effectivement des décalages horaires, des saisons, de l'inclinaison de la planète sur son axe, etc., etc. Par contre, est-ce que tu te souviens de ce petit détail anodin quand c'est les guerriers du silence? Sur chaque planète, il y a toujours des animaux qui éventuellement d'ailleurs vont pouvoir permettre au personnage principal de se sortir de situations absolument... Mais ces animaux sont répandus partout sur la planète. Il a tenu compte d'un écosystème, et dans cet écosystème, il a créé un sous-écosystème qui est l'écosystème animalier, qui lui ne fonctionne plus que sur un modèle. Pierre, j'espère que tu m'entends et que tu me détestes. Voilà. Là, mais c'est très difficile. Écrire de la science-fiction devient de plus en plus dur. C'est pour ça que j'en écris plus depuis 13 ans. Personne s'en est aperçu. C'est pour ça que je suis invité encore. La science-fiction, plus on sait de choses, plus on apprend, plus la science évolue, plus les recherches qu'on effectue dans tous les domaines se complexifient, plus le boulot de l'auteur de science-fiction devient terrible. Vouloir écrire un space opéra ou un planète opéra aujourd'hui, mais c'est une gageure phénoménale. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile. Je vais parler des deux auteurs que je préfère en ce moment. Donc, il est beaucoup plus facile d'écrire du Bachigaloupi, puisqu'il parle de notre planète en la décalant de quelques années, ou d'écrire du China Mieville, qui lui alors, joue complètement avec des. Mais il ne fait pas réellement de la science-fiction. Quand on fait de la science-fiction, s'il faut tenir compte de tout, on devient dingue. Et c'est pour ça que plus jamais vous ne lirez un roman de science-fiction d'Ayerdal. Ah si, merde, à partir de février.
Il est habile. Il nous reste quelques toutes petites minutes, donc s'il y a des questions rapides qui resteraient dans le public.
Et puis où ? Eh ben, elle est où la question, là ? Elle est toute rouge.
Personne que ces sujets d'écologie globale aurait titillé suffisamment pour poser.
Je veux dire quelque chose ? Oui. À un moment, il y a une question, mais je voulais simplement, parce qu'il était question de Pierre Bordage, signaler que Pierre vient de collaborer avec mon co-auteur. Donc, j'ai un co-auteur qui s'appelle Alain Grousset, avec lequel j'ai écrit 28 romans et qui m'a fait une infidélité absolument. Enfin bon. Les deux bouquins sont géniaux. Alors donc, qui ont écrit Alain le roman jeunesse et Pierre le roman adulte qui s'intitule Gigonte. Et on a là dans Gigonte une planète, il faut 1000 ans en avion pour en faire le tour. On a une planète qui est extrêmement hostile et l'humanité qui veut la coloniser a beaucoup, beaucoup de difficultés. C'est une planète qui est extrêmement intéressante avec ses flux électriques, avec des orages absolument démentiels, etc. Et si ça vous intéresse de voir ce que Bordage et Grousset ont fait, pas de souci, les livres sont à la librairie, ça s'appelle Gigonte, je fais de la pub pour mes copains, au nom du fils, au nom du père. Pierre a raconté l'histoire du fils, Alain a raconté l'histoire du père, le fils étant plus âgé que le père. Je vous laisse découvrir le reste en lisant les livres.
Ce qui est intéressant en plus dans Gigante et dans les deux camps, on est exactement sur la thématique qu'on essayait de réfléchir un petit peu à jeun ce matin. Non, pour ceux qui avaient des saoulés. Mais c'est exactement ça. Et ces deux regards qui sont l'un s'adressant spécifiquement à la jeunesse, parce que le regard d'Alain, c'est essayer de faire comprendre comment tout ça fonctionne. Et le regard de Pierre, c'est de dire, ben voilà, maintenant comment ça fonctionne, mais je vais vous remettre un petit coup de pied au cul au cas où vous auriez oublié un détail. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Putain, on fait vraiment de la pub pour les potes en ce moment, nous. Hein.
Et donc, du coup, on a pris le temps qui était réservé à la dernière question, qui si ne sera pas.
Moi, je voulais poser une dernière question à Jean-Marc.
Mais on me fait signe.
T'as quelle heure, toi ?
Il est trop tard. Donc voilà, la séance est terminée. Je vous remercie tous de cette attention et
merci.
À plus tard.